Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence, enfin cette table ronde plus exactement, intitulée 100 ans d'héroïne dans les animés. Moi je m'appelle Emmanuel Bagot, les autres ici vont m'appeler Nemo, je suis le secrétaire de l'association Forum Thali qui organise cette table ronde ainsi que le cosplay qui va arriver juste derrière. Cette conférence va s'intégrer dans un événement dont vous avez peut-être entendu parler qui sont les 100 ans de l'animation japonaise et à cette occasion on va revenir sur le traitement des personnages féminins dans toute l'animation japonaise au travers de différents styles et dans différentes catégories. Donc je vais présenter les petits camarades qui sont avec moi. Il y a tout d'abord Lionel, bonjour Lionel.
Bonjour, du coup moi je serai sur Yann lors de cette conférence. Je suis membre de Forum Thali tout comme Nemo et tout comme Yoka. Donc voilà.
Il y a également Nikki.
Bonjour. Alors, du coup, moi, je suis étudiante à l'école Pivot en concept art et je suis aussi intéressée par l'animation japonaise et occidentale.
Bah, parfait. Ça tombe bien pour le sujet de la conférence.
Exactement.
Vous avez également Emma.
Donc, bonjour. Ça marche ?
C'est pas vrai.
Bonjour, du coup. Moi aussi, je suis... Plus proche. Je suis aussi étudiante à l'école de Pivot en bande dessinée et je fais également du fanzina à côté depuis 5 ans.
Et enfin, comme on l'a déjà présenté, c'est Yoka.
Bonjour, je suis Yoka Yonatan Bartak. Je suis responsable conférence de l'association Forum Thali et du coup, j'interviens régulièrement dans des salons sur des sujets en rapport avec l'animation japonaise pour transmettre un petit peu de pédagogie. Et aujourd'hui, les 100 ans d'héroïne dans les animés, hein, ça tombe bien.
Donc cette table ronde sera vraiment organisée un petit peu comme une discussion, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes avis autour de la table. Mais avant de commencer, je voulais remercier bien entendu les Utopiales et la journée Mangatan qui nous ont permis de faire cette table ronde. Et je voulais aussi préciser que dans la mesure du possible, on laissera une partie de la table ronde, juste après la table ronde, pour répondre à vos propres questions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous préparer pour la fin, on essaiera d'en laisser le plus de temps possible. Alors, pour commencer et servir d'introduction, on a voulu commencer par quelques clichés qui existent un peu sur les personnages féminins dans l'animation japonaise. Ces clichés, en fait, vous allez voir, ils vont revenir régulièrement au sein de la table ronde, puisque c'est des choses qu'on retrouve, puisque, comme tous les clichés, il y a deux aspects. Il y a quand même un fond de vérité dans de nombreuses œuvres, et on y reviendra, mais il y a aussi le fait que de nombreuses œuvres, on peut combattre ces clichés et voir trouver des contre-exemples. Donc voilà, les quatre clichés, donc c'est est-ce qu'il n'y a pas de personnages féminins, ou s'il y en a, elles ne servent à rien, elles sont juste bonnes, les personnages féminins sont juste bons à être protégés, les demoiselles en détresse, quoi, ou elles sont juste là pour terminer, pour finir ce qu'on appelle les love interests, c'est-à-dire finir avec le héros. Et pour donner un bon contre-exemple, parce que, on va dire un bon contre-exemple et un bon exemple de ces clichés, je voulais juste lire un extrait d'un tome, d'un manga que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bakuman, qui est sorti en France, voilà, c'est le tome 1. Je vous rassure, je ne vais pas tout vous lire, mais je vais juste vous lire ce que dit un des héros sur l'héroïne principale, où il affirme carrément qu'au fond d'elle-même, elle sait qu'elle rêve de devenir un jour une jolie mariée, et ce que ça représente, le summum du bonheur d'une femme, et que jusque-là, non, même au-delà, elle sera féminine et gracieuse. Et je vous passe tout le reste, parce que c'est tout un embrouillamini de choses sur le fait qu'elle a des bonnes notes, mais elle sait ne pas trop le montrer. Donc voilà, donc c'est la preuve que y a quand même, ça se passe... pas mal de commentaires, ce genre de choses, mais c'est aussi la preuve qu'il y a quand même pas mal à discuter sur la représentation des personnages féminins. Et on va commencer tout de suite par une catégorie qui n'en est pas vraiment une, c'est juste quelques personnages qui nous sont apparus marquants. Je tiens à préciser, avant de donner la parole à mes petits camarades, que là, on va montrer des exemples. On n'abordera pas forcément tous les exemples qui sont sur les slides, c'est juste pour pouvoir parler à un maximum de gens en montrant pas mal d'œuvres. Il ne s'agit pas de faire un catalogue, mais voilà, vraiment pouvoir vous montrer un petit peu par des exemples, en espérant qu'il y en a certains qui vont vous parler. Je propose de commencer chronologiquement par Princesse Saphir.
On va même commencer avant Princesse Saphir,
oui,
parce que Princesse Saphir, c'est 1967. On va commencer en fait dès les films de propagande de la Seconde Guerre mondiale qui ont été faits au Japon, donc à partir du milieu des années 1930. Le rôle de la femme, c'est uniquement un rôle de mère, un rôle d'épouse, qui va envoyer son mari, ses enfants au front, qui va être présente quand ils vont revenir, qui va leur cuisiner à manger, qui va les réconforter et qui va les renvoyer à nouveau au combat. Et c'est au début uniquement le rôle des personnages féminins, c'est un rôle de mère, un rôle d'épouse. Ça va commencer à changer avec Princesse Saphir en 1967. Princesse Saphir qui est, comme son nom l'indique, une princesse et qui va vivre différentes péripéties, différentes aventures, comme pourrait le vivre un personnage masculin. Et il est intéressant à noter que Princesse Saphir, tout du long de son manga, elle va être uniquement habillée comme un personnage masculin. Donc c'est un personnage féminin, mais il n'y a pas encore cette notion de féminité, il n'y a pas encore cette notion, on va mettre une héroïne au premier plan. Ça reste un personnage féminin, mais qui est traité comme un personnage masculin, qui est habillé comme un personnage masculin et qui va se comporter comme un personnage masculin.
C'est-à-dire d'ailleurs, elle revêt la part d'un homme pour endosser le rôle d'un homme.
C'est
quasiment.
Ça, exactement. D'ailleurs, le titre japonais, lui, il n'y a pas le mot princesse. En France, on a le mot princesse vraiment dans le titre, qui veut dire voilà, c'est une femme. En japonais, c'est Ribon no Kishi, qui veut dire le chevalier au ruban, et qui du coup peut laisser planer le doute sur quelle est son identité sexuelle.
De toute façon, tous ces personnages-là sont quand même. Il y a différents types de personnages. Il y a des femmes fortes, on pense à Nausicaa par exemple, mais on joue pas mal sur les genres. Je pense notamment à Lane ou Kino. Je sais pas si l'une d'entre vous veut réagir là-dessus. Emma.
La différence qu'on a avec Princesse Saphir ou Lady Oscar et Kino et Lane, c'est que ce sont des personnages féminins, mais qui restent neutres dans leur série. Le but de la série n'est pas de dire c'est un gars, c'est une fille ou c'est une fille qui s'habille comme un gars. C'est le contexte général de la série qui réfléchit sur d'autres choses. Et il se trouve que le personnage est féminin, mais c'est secondaire. Je pense, moi ça a été mon cas, pendant longtemps j'ai cru que Kino c'était un homme, et on m'a appris récemment que c'était une femme, j'en étais surprise. Mais c'est pas le sujet de l'œuvre. Et du coup, la question se pose pas vraiment sur vraiment le fait que ce soit une femme ou pas. La même chose se passe pour Lane, où on réfléchit plus sur l'humain que sur la nature même du genre.
On va peut-être préciser pour ceux qui ne les connaissent pas. En fait, Lane parle, on peut dire, de réseau. C'est un personnage, c'est limite une légende en fait des réseaux. Le fait que ce soit une femme, par exemple, ce n'est pas vraiment traité en soi. De la même façon que Kino est une voyageuse, mais elle pourrait être un voyageur.
Dans les deux cas, un personnage masculin aurait pu remplir le même job. Ça ne change rien du tout. C'est vraiment aussi, secondaire.
C'est cette absence de genre aussi qui les rend marquants.
Oui, ça rend ça assez notable parce que la plupart du temps, que ce soit dans les œuvres japonaises ou occidentales, quand le genre est neutre, quand il n'y a pas besoin d'afficher un genre particulier, ça sera toujours un personnage masculin qui sera représenté. Et là, ils ont choisi de faire un personnage féminin. Donc c'est quand même assez notable et plutôt bien, d'ailleurs.
Mais du coup, est-ce qu'il se réfugie pas derrière ce genre neutre pour pas dire que c'est une femme ou...
Non,
c'est
je pense
un peu
pas.
Peut-être aller un peu loin, mais oui.
Non, au contraire, je pense que justement, c'était la volonté de vouloir montrer que les femmes peuvent faire la même chose que les hommes sans avoir à montrer spécifiquement que ce sont des femmes. Et donc ça permet de dire, ce sont des êtres humains qui sont du sexe féminin, mais qui font des choses comme des hommes et qui le font très bien, et qu'on n'a pas besoin de préciser que ce sont des femmes.
Ah, du coup, quand on avance après un petit peu dans le temps, on commence à voir vraiment des exemples de personnages qui sont féminins, et qui sont féminins dans leur sexualité et dans leur apparence aussi. Il y a justement Miyazaki, Hayao Miyazaki que vous connaissez tous, qui a quand même amené ça, parce qu'il se considère lui-même comme un féministe. Et du coup, son premier exemple, c'était Nausicaa en 1984. Nausicaa, c'est un personnage incroyablement fort. C'est un personnage qui va prendre toutes les différentes facettes que peut avoir une femme. Elle va être tour à tour mère, épouse, sœur de différents personnages qu'elle va rencontrer au cours de sa route. Mais elle va vraiment exister par elle-même. Elle va vivre sans devoir être comparée à différents autres personnages.
On peut aussi parler beaucoup de Sailor Moon, qui lui, du coup, va rester vraiment dans le côté féminin de l'héroïne, qui elle aime bien pleurer, elle aime bien se maquiller, elle est super féminine. Mais elle n'attend pas son prince, elle va faire les trucs elle-même, elle va combattre les méchants, elle va faire son aventure. Et même si elle a une histoire d'amour qui est d'ailleurs plutôt intéressante, ça ne va vraiment pas être le propos de l'histoire. Ce qui va être même plus intéressant, ça va être toute l'amitié entre toutes les protagonistes féministes, qui est super important. Et c'est une œuvre assez positive là-dessus, parce qu'il n'y a pas de rivalité féminine ou quoi que ce soit. C'est vraiment le côté même sportif un petit peu. Le côté neketsu qu'il peut y avoir dans les shonen, c'est-à-dire la camaraderie et même l'amitié virile. Ouais. Et dans le Magical Girl, ça va être la même chose, mais le penchant féminin, au final. Et qui est assez bien représenté dans Magical Girl et par Sailor Moon.
Sailor Moon avait fait scandale à l'époque au Japon, parce qu'il y avait tout un pan de la société japonaise qui s'était élevé pour dire « Oh là là, attention, elles ont des mini-jupes, elles se maquillent, il ne faut pas faire ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être vu, il ne faut pas montrer le corps féminin. » Et Sailor Moon avait tout ce message aussi, c'est votre corps, faites-en ce que vous voulez vous mettre des mini-jeux, vous voulez vous maquiller, vous pouvez avoir les amis que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de vous confronter, d'être en accord avec ce que la société vous impose. Vivez votre corps et votre vie tel que vous le souhaitez.
Et du coup, bah, c'est une transition toute trouvée avec Utena, qui pour le coup, en termes de rapport au corps... Alors Utena, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est une œuvre qui est passée en France à l'époque sur Game One, qui est sortie. Si ma mémoire est bonne, tout est sorti en France. Je ne sais pas comment trop définir Utena. On l'a mis dans un personnage marquant, justement parce que c'est une relation extrêmement complexe. Utena, ce sont des femmes fortes, mais en même temps, il y a quand même des hommes qui sont derrière. Je sais pas si on...
Bah, Utena se travestit pendant une grande partie de la série aussi, donc on en revient à la même question. C'est Utena prend l'apparence d'un homme pour exister.
Elle même devient si elle, un prince, carrément.
Voilà, c'est ça. Elle devient le prince que les personnages bah, attendent.
De l'autre personnage, Imemiya, qui est sur la... Mais c'est, je sais pas, c'est, Utena a vraiment un rapport assez particulier avec toutes les symboliques de Rose, etc. Je sais pas si on peut...
Il y a beaucoup de symboliques, mais Utena, ça reste quand même le prince charmant, sauf que c'est un personnage féminin.
Voilà. Oui, il y a la grosse symbolique de l'épée, qui est quand même, voilà, Utena va prendre l'épée, va prendre le rôle du prince, plutôt que d'attendre qu'il arrive aussi de la même manière, et qui, au final, juste se réapproprie un rôle masculin. Mais ça reste, en tout cas au début, vraiment un rôle masculin qu'elle va prendre, et pas juste, je suis une femme, je vais faire mes propres aventures.
Et il nous reste donc Lovina. Lovina, c'est vraiment la comédie romantique. On le retient. Alors, on arrive sur un des clichés qui reviendra régulièrement au cours de cette table ronde, qui est le harem. Alors, grosso modo, le principe du harem, c'est qu'il y a un personnage d'un certain sexe, en général, donc c'est un homme, et autour de lui, il y a toute une équipe de personnages, donc là, féminins, qui s'intéressent qu'à lui. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est typiquement harem. Mais Lovina est un harem, et c'est aussi une comédie romantique, même si on retrouve... Parmi tous les personnages qui sont sur cette slide, c'est quand même le truc qui se conforme, en tout cas au premier abord, un peu plus à des trucs un peu plus traditionnels.
Bah, tous les personnages sont des stéréotypes. Tous les personnages sont des stéréotypes ou des clichés. Il y en a pour tout le monde, en fait. Si on aime un personnage qui a un mauvais caractère, ou la bonne femme au foyer, ou celle justement qui a l'apparence de la mère, c'est pas un seul personnage qui les récupère, c'est divisé sur plusieurs personnages. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les interactions entre les personnages féminins, qui du coup sont tous différents. Donc... ça ouvre plein de possibilités.
Mais ça reste quand même, on reste, oui. On reste quand même dans le domaine du cliché. On va passer. Oui, pardon, excuse-moi.
C'est vrai que juste pour compléter ce qu'elle disait, dans Lovina, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que finalement les personnages masculins sont assez peu traités comparé aux personnages féminins qui eux sont beaucoup plus approfondis et ont beaucoup plus d'interactions entre eux, justement, comme tu disais.
Mais c'est parce qu'il y a besoin d'un. Le personnage masculin est là en tant qu'avatar du lecteur, vu que c'est. Un public masculin, ça se destine à des hommes. Du coup, forcément, bah, si on met un personnage masculin trop fort, ça tombe un peu à l'eau.
Il y a même tout un tome du manga où il est complètement absent et pourtant, il est toujours centre des conversations, ce qui résume un peu la comédie arabe. On va passer à un autre genre. Alors là, c'était vraiment des personnages marquants. Là, on va retomber un peu plus dans le cliché pur et dur puisque c'est l'ère du mecha. En tout cas, tous les personnages qui concernent les séries on pourrait dire de robots, pour simplifier. Alors, on va pas revenir sur l'éternelle guerre Azuka Rei, s'il y en a qui connaissent un peu la culture, qu'on va dire geek. Mais peut-être que, Yoka, tu peux commencer avec Rei.
On va commencer avec Kei, qui est un des personnages d'Albator. Donc Albator, je pense que c'est quand même un nom qu'un certain nombre d'entre vous ont pu entendre. Hein. C'est un space opéra avec un personnage masculin très très fort. Kei, du coup, qui est dès le début présenté comme étant un love interest potentiel d'Albator. Et la scène qui l'a rendu célèbre, c'est une scène où elle est nue dans la douche. Donc ça montre très bien en fait quel a été le traitement, qui était la place réservée aux personnages féminins dans les années 60, début des années 70, où bah, elles sont là pour être jolies, c'est des belles plantes qui sont là, qui accompagnent le personnage principal masculin, et bah, c'est globalement tout. Hein.
Oui, et puis tu peux, du coup, alors, c'est un peu différent pour la Aman...
Pour Aman Khan, alors c'est particulier, puisque là, du coup, on va avoir un personnage féminin qui va servir d'antagoniste au personnage principal. Donc on va vraiment avoir ici un personnage qui est très très fort, un personnage qui va prendre ses propres décisions, un personnage qui va tenter d'établir ses propres règles, de faire établir sa propre loi, un personnage qui va avoir du coup un certain nombre d'hommes sous son commandement. C'est quelque chose qui se faisait pas forcément à l'époque parce que les places de leader, les places de commandant sont souvent des places qui sont réservées aux hommes dans la fiction. Et c'est un personnage qui va être aussi assez peu sexualisé. On voit sa tenue, elle n'est pas particulièrement moulante, ses seins ne sont pas forcément mis en avant plus que ça. C'est pas non plus une tenue qui la recouvre intégralement, mais c'est un personnage habillé, j'ai envie de dire, relativement normalement.
Pour son univers. Parce que c'est Gundam, on va le préciser.
C'est quand même Gundam. Mais elle va quand même finir par servir de love interest au héros. Elle va quand même servir par avoir un rôle de mère pour un des autres personnages, de l'œuvre. Et comment elle va finir ? Elle va finir par se sacrifier pour justement la fille dont elle sert un petit peu de mère adoptive. qui est un peu une forme ultime de maternité, qui est de se sacrifier pour la génération future.
D'ailleurs, le rôle de mère, c'est un cliché qu'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire c'est un personnage, là on pourrait parler de Faye Valentine dans Cowboy Bebop, qui est un personnage qui est présenté un petit peu comme une femme fatale, mais qui perd un peu ce statut au fur et à mesure.
C'est vrai que il y a deux personnages justement là-dessus que je retiens beaucoup, qui sont Faye Valentine et Yoko, parce que justement, par exemple, Faye Valentine, c'est un personnage qui, toute la première moitié de Cowboy Bebop, on la présente vraiment comme étant une femme fatale, alors que, au contraire, Leroy, on va le présenter comme étant un mec un peu ramolo, un peu mis en arrière, alors que finalement, ça va vite s'inverser. C'est-à-dire que Faye Valentine va finalement être présentée comme en apparence femme fatale, mais qui derrière a un fond fragile et a besoin du héros pour l'épauler, pour l'accompagner tout au long de la série. Et finalement, Yoko, c'est vrai que même s'il y a eu des avancées, mais le schéma de Yoko reste assez pareil, c'est qu'elle est présentée comme étant une femme fatale, mais finalement, elle va suivre un des personnages principaux, elle va devenir maîtresse d'école, enfin, elle respecte vraiment les clichés, quoi. Alors que l'avantage de Yoko, c'est qu'il y a quand même une évolution sur ses choix de love interest, c'est-à-dire que même si il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient choisi comme étant un love interest, c'est elle qui va décider avec qui elle va finir, et c'était quand même une évolution en soi.
Même si, pour rester sur Yoko de Gurren Lagann, on en a parlé tout à l'heure, c'était une des scènes où elle apparaît en premier, je ne sais plus qui...
C'est moi qui en avais parlé. Au tout début, quand le personnage est introduit, en fait, les deux protagonistes masculins sortent du sous-sol où ils ont toujours vécu pour arriver à la surface. Ils se font attaquer par un monstre. Yoko arrive, combat le monstre et le bat. Et la première réflexion que fait le héros masculin, c'est pas « Ah, merci de m'avoir sauvé, oh, elle est super badass cette femme », c'est « Ah, quand même, les femmes de la surface, c'est pas la même espèce ». Juste en objectifiant au final le personnage et en se projetant juste sur le plan boobs, le plan cul. Et du coup, ça va totalement mettre en arrière dès le début la puissance du personnage au profit de justement sa sexualité qui va être un argument de vente pendant toute la série au final.
Ça reste pareil quand on voit le Major Kusanagi dans Ghost in the Shell. Là, on voit la tenue, là vous voyez là sur la slide. C'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un qui peut hacker toutes les machines, c'est quelqu'un d'incroyablement intelligent, mais il faut voir comment elle est habillée derrière.
Oui, puis on en revient aussi à cette idée que les clichés, enfin pas les clichés, mais les exploits féminins, bah, c'est pas forcément très bien mis en avant. Alors dans l'ère du mecha, je pense que les héros sont avant tout des hommes, quoi.
Bah, du coup, on arrive au cas de Vision d'Escaflon avec Itomi en personnage principal, mais là on tombe dans un autre stéréotype, c'est la fille sage. Elle est dans son uniforme, elle est bien habillée, elle fait ce qu'on lui demande. Bon, elle fait pas trop non plus, elle reste quand même en arrière comparée au personnage masculin, mais ça reste le personnage principal. Mais comme c'est le personnage principal, faut qu'elle renvoie une autre image. C'est plus l'image de la femme fatale.
Oui, puis c'est là, j'ai pas lu toute la page dans Bakuman, mais il y a un côté où il est dit juste après, cette page est une horreur, hein, mais il est dit juste après, en fait, dans l'une des élèves de la classe du héros, qui explique qu'elle a de très bonnes notes, mais comme elle le met trop en avant, c'est totalement désagréable. Enfin,
faut pas le dire, quoi.
Vas-y. Ça la rend totalement rédhibitoire. Oui. Elle est plus charmante parce que, justement, elle est intelligente, elle le sait.
Et puis elle le met plus en avant pendant plus de 3 cases, quoi. C'est assez. Il nous reste, je crois, Asuka et Rei pour terminer sur le mecha. Alors là, c'est...
On garde le meilleur pour la fin, hein, parce que là, on parlait de Love Interest. Bah, Asuka et Rei, je veux dire, c'est vraiment ça. Hein. Si vous avez vu Evangelion, leur relation avec Shinji, complètement, c'est depuis 1995, ces débats, c'est qui la meilleure entre Asuka et Rei, ce qui est un peu une idée de dire qui va finir avec Shinji à la fin.
Dont Shinji, dont on n'a pas grand-chose à
sachant
faire.
Sachant que Shinji ne mérite aucune des deux. voilà.
Non, mais c'est, cette question dépasse la simple question phallocratique de choisir entre deux femmes. Mais il y a vraiment... c'est une espèce de guerre de clichés qui est assez fascinante, en fait, où on a tous un avis.
Les deux personnages sont tellement différents que forcément...
Tu peux peut-être définir un peu les deux personnages,
voilà,
pour éventuellement les gens qui...
D'un côté, on va avoir Asuka, qui est le personnage très sanguin, qui cherche toujours la bagarre, qui n'est jamais contente. Et de l'autre côté, Rei, elle dit rien. Elle est là, elle fait
du thé.
Oui, c'est vrai, elle fait du thé, mais sinon elle fait pas grand chose. Mais ces deux archétypes qui finalement sont tellement à l'opposé que c'est intéressant de les mettre en opposition. Et c'est justement ça que je trouve intéressant dans le débat Rei-Asuka.
Parce que c'est pas simplement deux personnages, en fait, comme souvent, c'est là on cherche derrière le personnage.
C'est deux stéréotypes.
Ce qui s'y trouve. Est-ce qu'on peut faire une espèce de conclusion sur le mecha, en fait?
Le mecha, c'est un genre qui est très majoritairement pensé pour un public masculin, et ça se ressent dans le traitement des personnages. C'est-à-dire qu'on n'échappe pas à tout ce qui est ce male gaze, donc tout c'est écrit de telle sorte à ce que ça fasse plaisir à l'adolescent, au jeune adulte qui va lire, qui va regarder la série. Et ça se ressent beaucoup dans des personnages qui sont bien mis en forme, des personnages avec souvent un petit peu de un petit peu ou beaucoup de fanservice derrière, mais qui vont pas forcément exister par eux, qui vont juste rester dans l'entourage du personnage principal sans forcément se démarquer plus que ça.
Puis si on prend en termes chronologiques, on est parti de quelque chose d'un personnage dont tu as dit on la connaissait grâce à une scène de douche, à Yoko dont tu parlais, qui elle est un peu plus indépendante, mais on reste dans ce cliché malgré tout. C'est un peu le fil rouge de cette table ronde en fait, c'est que malgré les évolutions, on reste dans des gros clichés.
Oui, parce que de toute manière, il faut savoir que les animés et pas mal aussi les animés de mecha, c'est fait aussi pour vendre du merchandising à côté. Donc pour le mecha, il y aura les figurines de mecha à monter et les figurines de Yoko en bikini ou Rei dans sa nouvelle tenue. De toute manière, le but aussi c'est de vendre à un moment, et qu'est-ce qu'ils vendent dans le mecha, ça va être ce stéréotype là au final.
Pour les hommes du coup. Et du coup, en parlant de produits, enfin en tout cas de produits culturels pour les hommes, on va enchaîner avec les shonen. Les shonen, je sais pas si on peut résumer rapidement ce que ça signifie, c'est des œuvres qui sont avant tout qui sont pour un public adolescent
c'est ça,
masculin.
C'est un public de 12 à 18 ans, les shonen. Des exemples très connus, c'est des exemples comme One Piece, comme Naruto, comme Fairy Tail. C'est typiquement le genre d'œuvres qui représentent un petit peu le shonen, qui sont les porte-étendards du shonen. Et les personnages féminins qu'on va retrouver dans les shonen, il y a du coup de tout, mais en fait, il y a de tout sans forcément avoir de la variété.
C'est-à-dire en fait ?
C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de personnages féminins. Je veux dire, quand on prend par exemple One Piece, il y a un nombre assez incroyable de personnages féminins à l'intérieur. Il y a un nombre incroyable de personnages tout court dans One Piece. Et du coup, de facto, il y a beaucoup de personnages féminins. Mais au final, on va se rendre compte que les personnages féminins, en tout cas ceux qui vont être au premier plan, ça va quand même être des personnages que j'ai envie de dire qui ont une forme de sablier. Il y a beaucoup de bonnets, il n'y a pas du tout de hanches. Après, ça revient à nouveau. Même si elles vont avoir une personnalité derrière, au final, quand ça va être leur moment de briller, très souvent, ça va juste redevenir des femmes en détresse.
Oui, en fait, dans la plupart de tous les arcs de One Piece sont en général concentrés sur un personnage en particulier de l'équipage. Et même si à chaque moment, les personnages de l'équipage peuvent se retrouver en détresse, c'est toujours sur l'arc qui va être focalisé sur le personnage féminin qu'elle sera vraiment vraiment en détresse, elle aura aucun rôle actif. Par exemple, Robin ou Nami se retrouvent totalement en second plan dans leur arc et se font juste sauver à la fin, et ce qui est totalement paradoxal, parce qu'à côté on les voit savoir se battre, elles sont super importantes, elles ont quand même de la personnalité, mais vraiment vient le moment pour elles de briller, au final elles sont totalement éclipsées par le personnage masculin.
Oui, ou alors si elles brillent, c'est dans un coin de l'histoire quoi. Oui, parce que One Piece, on avait mis un ami. Oui, du coup, Soriane.
C'était juste pour ajouter ça, que même les antagonistes féminines, souvent, seront montées comme des femmes fortes. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y aura toujours un moment final où elles vont se ranger, où elles vont redevenir toutes gentilles, toutes fragiles. Alors que, genre, deux chapitres avant, elles étaient vraiment montrées comme des femmes fortes et ultra puissantes.
Dans One Piece, il y a l'exemple de Boa Hancock, Amazon. Ouais. Qui est vraiment présentée comme une antagoniste de Luffy, et au final quand Luffy va quitter l'île, Boa Hancock elle va être au pied de Luffy en mode épouse-moi.
Ouais, c'est un cliché qui est assez insupportable et qui est récurrent, c'est-à-dire que la femme, tant qu'elle n'est pas intégrée, on va dire, dans les schémas romantiques, elle peut être ce qu'elle veut, hein. C'est pas grave, elle n'est pas intégrée, mais à partir du moment où elle est intégrée, alors là il est hors de question qu'elle aille devant quoi.
Oui, justement, dans One Piece, Eiichiro Oda a la capacité de faire des morphologies totalement incroyables pour tous ses personnages, que ce soit masculin ou féminin, mais quand les personnages féminins seront un peu plus à mettre en premier plan, par exemple Arbida, forcément ils re-rentreront dans le cliché de la bonasse, hein. Et c'est assez dommage parce que il y a justement une capacité de Eiichiro Oda de faire des personnages super intéressants graphiquement et scénaristiquement. Donc c'est dommage de le voir rentrer dans le modèle du sablier où le sable ne passe même pas, tellement il n'y a pas la place.
Oui, puis t'as les modèles simplement de rôle. Je disais tout à l'heure le rôle de la mère, c'est-à-dire où il y a le moment où elle n'est pas rangée, mais elle devient la maman du héros.
Bulma, justement.
Du coup, sur rien de...
C'est vrai que là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire, parce que je suis pas vraiment spécialement d'accord sur l'avis du fait que Bulma est une pondeuse à enfants, déjà parce qu'elle n'en a que deux. Parce que je pense justement que, par exemple, Shishi dans Dragon Ball Z est un problème beaucoup plus important que Bulma.
Si tu peux définir qui est Shishi.
Shishi, je pense, c'est la compagne de Goku. C'est ça qu'on peut l'oublier, parce que c'est ça qu'on la voit à peine. Donc finalement, le problème, c'est que Toriyama, finalement, sait introduire des personnages féminins qui ont qui ont de la force, qui ont de la puissance. Justement, par exemple, Shishi dans Dragon Ball classique, à la base, elle est présentée justement comme une femme puissante qui maîtrise mieux les arts martiaux Goku et que justement, elle va le ridiculiser, elle va l'humilier. Et qui finalement, justement, genre, enfin, du coup, un tome plus tard dans Dragon Ball Z, elle va être relayée, elle va cuisiner, elle va faire le ménage et elle va dire à Gohan d'aller à l'école. Et c'est assez triste. Alors que justement, Bulma, je trouve que dans Dragon Ball Z, elle aura un traitement beaucoup plus important, même si, et c'est quelque chose sur lequel on va revenir plus tard, parce que justement, c'est un autre fil rouge, c'est que justement, Bulma, son principal problème, c'est qu'elle va être fragile physiquement, c'est-à-dire que ça va être la personne qui va avoir besoin de se faire sauver par Goku, par Vegeta, justement, par les combats, mais qui va être assez importante d'un point de vue intellect, c'est-à-dire que Bulma, comme dans Dragon Ball, elle va inventer la machine à voyager dans le temps, elle va apporter tout plein de choses, voilà. elle va permettre, dans Dragon Ball Super, elle va permettre à la Z-Team de pouvoir parcourir entre les univers. Enfin, elle est quand même assez avancée intellectuellement. Et pourtant, justement, c'est vrai que, comme ils vont dire, elle est souvent reliée à l'arrière-plan dès qu'on en vient à la base.
En fait, le problème, c'est que même si c'est une génie, hein, ça c'est dit clairement, c'est elle qui va vraiment aider les héros sur tout ce qui est technologique. Au moment où les héros vont en avoir besoin, si jamais Goku il a besoin de voyager dans le temps, pouf, elle va arriver, elle va sortir de sa poche arrière une machine à voyager dans le temps. Les personnages vont la remercier, ça va prendre 3 cases et on la reverra 10 tomes après parce que ils auront besoin de voyager entre les univers et entre temps elle aura disparu. Juste à la rigueur, on la verra rapidement avec ses enfants en train de les éduquer, de les envoyer à l'école, de cuisiner, qui sont des rôles au final qui correspondent aux femmes dans les stéréotypes. Et du coup, voilà, elle est là, elle fait des choses, mais elle les fait à l'arrière-plan sans qu'il y ait la moindre importance qui soit donnée.
Et ben justement, un personnage qui a réussi un peu à combattre ce cliché, en s'inscrivant dedans un peu au début, mais en le combattant vachement, c'est Winrit Fullmetal Alchemist. Donc on disait, ça joue sûrement sur le fait que c'est une femme qui a écrit cette histoire. Mais Winrit, qui est un personnage donc, de Fullmetal Alchemist, au début sert juste à réparer les mécaniques du héros et à lui taper sur la tête parce que c'est pas bien d'avoir cassé ses trucs. Mais très très vite, elle va vivre carrément son histoire. Quoi. C'est...
Oui, en fait, elle va carrément aller suivre son apprentissage dans son coin. On va avoir des chapitres qui vont être dédiés à elle, son avancement dans le scénario, en dehors des aventures des deux frères. Et ça, c'est plutôt important quand même. Et même si c'est plutôt... Enfin, je trouve ça plutôt rare aussi de voir une mécano comme ça. Elle a un côté un peu obsessionnel sur les automails. Et un peu nerd, qu'on voit pas forcément chez les personnages féminins.
C'est vrai, ouais.
C'est ce qui est assez intéressant. Et j'ai regardé un peu, je me suis renseignée avant la conférence. Et au final, Winry, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime dans le fandom de FMA. Parce qu'elle est un peu bruyante, c'est un peu comme Bulma en fait, elle est un peu bruyante, elle est un peu violente avec le personnage, et au final, soi-disant, elle sert que de love interest pour rien, alors qu'en fait, c'est totalement faux.
C'est un personnage indépendant.
Mais je pense que c'est justement son indépendance qui gêne, c'est qu'elle prend sa propre part dans l'histoire, elle fait ses trucs à elle, et à la fin, elle revient et elle devient un personnage principal, et elle devient importante à l'intrigue, et sans elle, finalement, l'intrigue n'aurait jamais pu arriver où on en est à la fin. Et les gens sont pas habitués à ce genre de retournement où jusque-là on a parlé de personnages qui étaient forts au début et qui perdent finalement au fil des chapitres ou des épisodes de leur force. Winry, elle a fait tout le cheminement inverse. Et je trouve ça assez intéressant. Justement,
une phrase intéressante que tu dis, c'est que les gens n'étaient pas habitués, mais est-ce que du coup, on n'a pas vocation à faire une étude sociologique de la société japonaise ? Il nous faudrait bien plus d'une heure pour ça. Mais évidemment, c'est un peu facile d'accuser le public, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière ça ?
Il me pose une colle là.
Le souci aussi peut-être qu'il y a pu avoir avec par exemple Winry et Bulma, c'est elles sont un peu l'ancrage à la réalité pour tous les personnages. Par exemple, Bulma va vachement ramener Vegeta à un côté, elle va l'humaniser un petit peu et ça peut gêner certains spectateurs qui sont là pour la baston, pour les complots dans FMA. Et là, ça va être tout le côté un peu humain. Par exemple, Winry va beaucoup représenter la famille et le foyer pour les deux frères, ce qui est très important de leur faire un ancrage dans quelque chose de plus sain que ce dans quoi ils baignent. Mais comme ça détache par rapport au reste du récit, peut-être que ça peut déranger les gens.
Puis...
en fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Parce que justement, pour revenir à Dragon Ball, il y a un autre personnage justement, qui est assez haï, justement parce qu'elle est assez bruyante et a fait de l'ombre aux héros. Ça va être les derniers personnages féminins de Dragon Ball Super qui étaient Caulifla et Kale, qui justement sont haïs par la fanbase. Parce que justement, on leur dit qu'elles ont du potentiel à se battre, elles savent se battre, elles sont bruyantes, elles sont les actes miroirs de Goku, mais en femme. Et ça pose problème à la communauté, tout ça, parce que justement, c'est des femmes qui ont un potentiel de puissance.
Oui, parce que Vegeta, il est quand même très bruyant.
Oui, voilà, ça pose pas de problème.
En fait, ce qui est fou, c'est que ce qu'on retrouve un peu, c'est il y a, enfin, on ne sait pas vraiment dire la communauté, c'est assez vague ça, mais il n'y a pas une gêne, mais il y a quand même les gens remarquent quand les femmes ne seraient pas à leur place.
C'est un peu ce qui arrive justement avec Saber dans la saga Fate. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Fate, c'est des figures historiques qui sont invoquées à notre époque pour se battre pour le Graal. Saber, je vais vous spoiler le premier chapitre, je suis désolé, c'est le roi Arthur. Donc c'est une version féminine du roi Arthur, et du coup qui se bat avec Excalibur. Donc c'est un personnage qui sait se battre, un personnage puissant, et durant tout le début de Fate Stay Night, elle va rester derrière le personnage principal, pas parce qu'elle veut rester derrière le personnage principal, parce que le personnage principal fait « t'es une femme, c'est pas à toi de te battre, c'est à moi de te protéger, c'est à moi de combattre ». C'est quelque chose qui évoluera au fur et à mesure, mais on a quand même au début ce côté, cette première réticence d'un personnage masculin qui est de se battre à égal ou même de laisser une femme se battre pour lui. C'est quelque chose qui est vraiment contraire aux principes tels qu'ils sont habituels.
Il y a une vraie résistance aux principes en fait.
C'est ça.
Et on va faire juste une petite parenthèse sur les animés de sport en fait qui font partie des trucs.
En général dans les shonen de sport, on va avoir des personnages masculins en grande majorité, et le personnage qu'on va retrouver féminin, qu'on va retrouver le plus souvent, c'est la manager. Et ça, c'est parce que culturellement, au Japon, dans les lycées, effectivement, les managers des clubs de sport sont souvent des filles. Mais dans l'animation, on a souvent le côté personnage qui est là, quelque part, dans le fond, qui fait des trucs de temps en temps, mais qui n'est pas très intéressant, qui est vraiment juste là pour meubler un peu. Et on a à côté des personnages un peu plus forts, je pense plus récemment Kyoko qu'on a mis sur le slide, ou Momoi dans Kuroko no Basket, qui sont des personnages qui sont décrits comme très beaux, très intelligents, très compétents, mais finalement quand on en parle ça va être elles sont très jolies, elles sont très intéressantes, elles sont calmes, elles font bien leur boulot, ou même Momoi qui apparaît dans Kuroko no Basket où elle a un chapitre entier, on la voit juste en maillot de bain, ça sert à rien mais on la voit en maillot de bain parce qu'elle est jolie, donc c'est quand même sympa.
Du coup le cliché force un peu son chemin.
Voilà, complètement.
C'est vrai que ça rejoint exactement sur ce qu'on disait, c'était qu'elles sont très bonnes intellectuellement, on les met en valeur, on va dire qu'elles sont très bien, mais on en revient forcément à leur physique et au fait qu'elles vont rester calmes et qu'elles n'ont pas de puissance physique. Il y a toujours ce cliché qui revient, comme tu disais.
On va passer du coup sauf si vous avez encore quelque chose sur les shonen, on va passer à la dernière catégorie qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une catégorie chronologique, c'est les 10 dernières années. Alors là, on a mis plein de choses un petit peu différentes, on va essayer de les regrouper un peu. Alors le premier truc, c'était, on peut difficilement parler des héroïnes, en tout cas récentes, sans parler du style qui est la tranche de vie, enfin, l'animé tranche de vie. Et là, on était beaucoup dans des récits d'aventure où on avait
des enjeux, des mondes à sauver.
Voilà, des épopées. Et là, on arrive sur par exemple, pour Keon ou Sandophonium qui est en bas à droite avec le personnage de Kumiko, ou même Love Live.
Chiaia Furu aussi.
Alors, je sais pas si Chiaia Furu est comme ça, mais on est sur des séries qu'on appelle character driven. C'est-à-dire, en fait, ce sont des séries qui sont portées par leurs personnages plutôt que par leur histoire. C'est-à-dire, c'est un petit peu, la série a une sorte de base de données de personnages et on essaye de vous rendre empathique, de vous rendre attaché à tous ces personnages pour que, déjà pour le marketing, hein, ce que tu disais, mais aussi pour essayer de porter, c'est ce qui porte un peu les personnages.
C'est le temps d'écrier terme Moe, hein, dont vous avez probablement entendu parler si vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà lu un petit peu des choses sur l'animation japonaise. Le Moe, c'est vraiment cette envie un petit peu de protéger des personnages, d'avoir des personnages mignons. C'est une partie inhérente aux œuvres qui sont centrées sur les personnages bien plus que sur l'histoire. Et l'œuvre qui a popularisé le genre, c'était Keon en 2009. Hein. Keon, c'est l'histoire d'un groupe de 5 filles qui vont se rassembler pour faire de la musique, mais qui ont passé plus de temps en fait à manger des gâteaux et à boire du thé qu'à réellement faire de la musique. On va juste suivre leur quotidien, comme ça, au jour le jour, les différents événements qui vont se passer, la rentrée, le festival scolaire, les vacances, la vie typique d'un lycéen japonais, centré uniquement sur des personnages. C'est souvent en plus des œuvres qui sont unisexes, soit 100% féminin, donc là c'est l'exemple qu'on a pris sur Keon ou sur Love Live, soit d'autres qui sont 100% masculines, mais où du coup, il va plus y avoir, on va perdre en fait ce côté, on va comparer un personnage en tant que love interest par rapport à quelqu'un d'un autre sexe.
Oui, du coup, en fait, le slice of life a permis aussi pas mal de faire naître un nouveau type de marketing qui est vendre du subtexte, donc du sous-texte, quelque chose de sous-jacent, sur les héroïnes, par exemple, féminines entre elles. Donc, Keon et beaucoup Love Live, ça a été, c'est qui c'est qu'on met ensemble sur les posters pour vendre un peu plus de figurines, etc. Et ça reste aussi, par rapport au Moe, sur ce côté un peu d'innocence et de pureté, où du coup ça va être, on va pas mettre de love interest masculin parce que ça va un peu souiller les héroïnes, donc on va les faire se mettre entre elles. Et comme ça, ça sera l'amour pur, pur et simple d'Yuri et des filles entre elles.
Sachant qu'il faut savoir qu'au Japon, le fait que des lycéennes, des collégiennes, soit deux collégiennes, deux lycéennes féminines ensemble, soit ensemble, en couple, c'est pas gênant au Japon. C'est tout à fait accepté tant que ça reste dans le cadre du collège et du lycée. Par contre, c'est une fois qu'elles arrivent dans la vie réelle, qu'elles commencent à travailler, qu'elles arrivent à la fac, bon là, faudrait peut-être qu'elles trouvent un mari quand même et qu'elles fassent des gosses.
Et ouais, faut arrêter de déconner.
Voilà, c'est ça. Tant que c'est juste une parenthèse, ça va, mais après, faut arrêter les conneries.
Il y a vraiment cette idée du retour à la réalité qui doit être absolument fait. On en revient toujours à ça au final. Hein, c'est...
Et justement, ça avait un nom, ça, je me rappelle plus, j'avais vu ça durant mes recherches, mais ça avait un nom justement où il y a une femme plus vieille que l'autre.
Oui, le SU. ESU.
C'est ça, voilà, l'ESU. Une femme qui va prendre une autre sous son aile. Plus jeune qu'elle et qui du coup aura une relation un peu ambiguë avec elle.
C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à une époque, un petit peu moins maintenant, et c'est quelque chose, puisqu'on en parle, donc je vais en parler rapidement, qui justement a tendance à mal se finir. C'est-à-dire que très souvent, une des deux filles qui vont être en couple, il y en a une deux qui va se suicider quelque part pour que. Ouais, carrément,
ça va mal
se finir. Il y en a souvent une des deux qui se suicide et l'autre qui finit par trouver un mari normalement, qui finit par avoir des enfants, parce que bah, du coup, c'est ça qui est attendu une fois qu'on est sorti de ce cercle fermé qui est. Le lycée ou qui sert un petit peu de jardin secret, et une fois qu'on est sorti de ce jardin secret, qu'on revient à la réalité, bah là faut arrêter la déconnade quoi.
Mais ça reste un trope assez utilisé, même si on sait plus d'où ça vient, mais à la base c'était surtout en Occident, c'était le côté tu peux mettre des relations homosexuelles du moment qu'elles finissent mal ou que c'est tragique pour bien montrer que c'est quelque chose d'immoral de toute manière et que c'est la normalité.
On va peut-être revenir à des choses un peu plus joyeuses avec Sandophonium, où c'était le personnage de Kumiko, dont l'œuvre c'est Sandophonium, dont on avait dit en préparant cette table ronde, en fait, qu'elle a un rôle assez intéressant, parce que Kumiko avait tout pour devenir un personnage mignon, peut-être même un peu nuche, alors qu'en fait, elle a un rôle qui est plutôt caractérisé par des traits un peu masculins.
Masculin. Kumiko, ça aurait pu être un personnage masculin, ça aurait en fait assez peu fondamentalement changé l'œuvre, parce qu'elle a vraiment ces traits de caractère qu'on a plus tendance à retrouver d'habitude dans les personnages masculins. Elle va servir de love interest à une des filles, donc ce que disait tout à l'heure Nikki avec les couples lesbiens. Et du coup, au final, c'est vraiment un personnage masculin, mais en tant que personnage féminin, et c'est quelque chose de très très intéressant.
Surtout, ce qui est assez intéressant à noter sur elle, c'est que dans toutes les œuvres de ce studio, les premières, donc Kyoto Animation, que ce soit Clannad, même Yoka plus récemment, y a un trope assez connu qui est que le personnage va être un petit peu cynique et en décalage avec la réalité et va être un peu sarcastique avec tout le monde. Et là, justement, le personnage de Kumiko, on lui dit souvent, mais quand même, t'es un peu dur.
T'es quand même super franche.
T'es vachement franche et nature quoi, pour une fille. Par exemple, la première réaction qu'elle a face à la fanfare quand elle arrive, c'est ouais, quand même, ils sont un peu nuls.
Oui, parce qu'elle est dans une fanfare en fait.
Oui, voilà.
On va passer à un autre.
Ouais, peut-être passer à Utano Prince-sama du coup.
Du coup, là, on arrive dans.
Parce qu'on est
dans
le harem.
Dans le harem, mais dans le penchant, dans le pendant féminin, c'est-à-dire c'est le reverse harem où on a un personnage féminin et plein de mecs. Et en fait, ces deux séries-là, elles prennent deux directions différentes. Donc, Yona, qui est le personnage principal de Yona, Princesse de l'Aube, qui est une très bonne série, où on a l'archétype de base de la princesse en détresse. Et en fait, plutôt que de se faire sauver, elle décide de prendre les armes elle-même, et puis allez, c'est parti, c'est moi qui vais sauver ma propre vie, je suis assez grande pour ça, j'ai pas envie d'attendre qu'on me sauve, alors que pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour être sauvée, elle est entourée de très jolis garçons, il n'y a pas de souci. Mais non, elle est capable de se débrouiller toute seule. Et à côté, on va avoir Utano Prince-sama, qui est, lui, une adaptation d'un jeu de... un dating sim, donc un jeu de drague. Et là, en fait, on a un autre personnage féminin qui, lui, n'existe pas vraiment, en fait, qui n'a pas trop de personnalité et qui rejoint un peu les personnages masculins de harem, où, comme le joueur ou le lecteur doit s'identifier, il faut que le personnage principal soit le moins présent possible ou représente un archétype qui passe à peu près. Donc, dans le cas de Utano Prince-sama, donc de Nanami, elle compose très bien la musique, mais bon, elle fait pas grand-chose. Elle est là, elle est gentille, elle fait ce qu'on lui demande, et puis c'est à peu près
le cliché inversé, quoi, qui est pas vraiment mieux que le cliché de base.
Voilà, mais... en fait, dans les deux cas, on est toujours dans le problème. C'est un personnage féminin, mais il est pas terrible, quoi. Il est pas très intéressant, au point que dernièrement, on va avoir des séries qui carrément les suppriment complètement. Il y a plus de personnages féminins, on met juste les personnages masculins, et puis ça fait
le job.
Oui,
On supprime l'avatar qui servait d'excuse.
Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, ça. règle pas mal.
Je suis en train de me dire que c'est limite plus honnête, mais je sais pas trop en fait.
Tant qu'on en est à parler d'archétypes, on va parler des archétypes dans tout ce qui est light novel. Hein. Donc les light novels, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est des petits romans qui sont illustrés, qui font en général 150-200 pages avec une dizaine d'illustrations à l'intérieur. Une des figures emblématiques du light novel ces dernières années, c'est Sword Art Online, donc, qui est un nom dont vous avez probablement entendu parler, que vous avez probablement déjà vu, avec son héroïne principale qui est Asuna. Asuna, quand elle est présentée au début, c'est typiquement un personnage de femme forte. Hein. C'est une des meilleures combattantes du jeu dans lequel ils sont. C'est quelqu'un qui va toujours aller au front, c'est quelqu'un qui sait se battre. Petit à petit, elle va devenir un love interest du personnage principal. Alors, tout le monde devient un love interest du personnage principal, hein, je veux dire.
Le principe du harem,
c'est,
quoi.
C'est ça. La plupart des light novels respectent le principe du harem, ce principe qui avait été mis en place justement avec Lovina au début des années 2000. C'est ça qui a démocratisé le harem, et on retrouve ça énormément dans les light novels avec vraiment ces différents personnages qui sont chacun caractérisés par un trait bien précis, qui vont tomber amoureux du héros, le héros qui là, on retombe à nouveau dans un héros qui sert un petit peu d'avatar en fait au personnage principal. C'est pas un héros qui est forcément très caractérisé, ou s'il est à l'inverse, ça va être quelqu'un qui est uber pété. On va vraiment avoir beaucoup de personnages féminins qui vont sortir de ces œuvres et qui au final vont quand même respecter les tropes, les caractérisations, les stéréotypes de ces œuvres.
C'est vrai que Asuna, c'est un peu le paroxysme du cliché. Sur les 10 dernières années, c'est vrai que dans les années 80, par exemple, on avait Shishi ou Bulma, et c'est vrai que dans les années 2010, on a Asuna, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage qui, comme je disais, va respecter le cliché classique du. Elle va être la personnage le plus fort du jeu, puis elle va rencontrer le héros, elle va tomber amoureuse, et du coup, là, elle va lui révéler qu'en fait, son rêve, c'était d'acheter une maison, d'avoir des enfants avec lui, de se marier, et voilà. Donc,
un crédit immobilier, un chien.
C'est ça, exactement. On vend plus que le chien et on y est, quoi.
Bah, c'est ce que fait Asuna au final. Hein. Il s'achète une maison, puis ils sont très
heureux.
Hein.
Justement, c'est que on passe vraiment de je désingue tout le niveau, alors que c'est un des niveaux le plus dur qu'on a fait jusqu'à maintenant, en fait, j'ai envie de me ranger tranquillement, je m'achète une maison et je me mets avec toi pour avoir un enfant, voilà.
Je vais faire une transition, mais en parlant de prêt immobilier, il faut savoir que l'un des personnages féminins. Donc de Bakuman, j'y reviens. J'ai pas de haine personnellement, mais sur le sujet, il faut avouer que ce manga est assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a un des personnages féminins, donc qui est un love interest sans trop d'intérêt, mais son père est agent financier, donc c'est cool pour obtenir les apparts.
Elle reste à la maison, elle fait le ménage, elle fait la nourriture, tout va bien.
Mais à la fin de la série, ils lui disent merci quand même.
C'est
Et on va quand même parler avant de conclure d'un dernier type de personnage, qui est le personnage de femme fatale.
Femme fatale totale.
On peut difficilement parler des héroïnes sans parler du personnage de femme fatale. On va prendre comme exemple Mine Fujiko. Donc Mine Fujiko, qui est un des personnages principaux de Lupin, la série qui s'appelait Edgar de la Cambriole en France à une époque pour des raisons des problèmes de droit, hein, puisque au Japon ils avaient pris le nom Lupin sans demander l'avis aux ayants droit.
C'est ce qui est toujours cool. Hein. Ouais. Ça passe pas tellement, mais du coup c'est devenu Edgar le détective cambrioleur.
Et du coup Fujiko, c'est la femme fatale. Elle va arriver, elle va se servir de son corps, elle va faire tomber amoureuse, elle va faire tomber à ses pieds tous les personnages masculins, quels qu'ils soient. Ça, y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. Ils vont tous avoir à un moment ou à un autre un crush avec Fujiko. Et au début, c'était juste un personnage qui interagissait de temps en temps avec le groupe de Lupin, et qui en 2012 a eu un animé où c'était elle qui était vraiment protagoniste, c'était elle qui agissait directement, et de temps en temps elle croisait les autres personnages et pas l'inverse. Donc là on a vraiment eu un renversement complet en fait du protagoniste, avec ce personnage de femme fatale qui prend vraiment le contrôle de la situation.
Surtout que Fujiko, elle n'est pas construite par rapport au personnage masculin de la série. Elle n'est pas construite parce qu'il fallait un love interest pour Edgar de la Cabriole, enfin pour Lupin. Elle est construite en tant que personnage, elle a sa propre aventure. Du coup, son animé le montre bien. Elle est là, elle gravite avec eux, mais elle fait ses propres histoires à côté et elle peut très bien exister toute seule sans avoir besoin des autres personnages de la licence.
Oui, mais c'est vrai qu'elle respecte quand même un gros cliché encore qui est assez triste, c'est que finalement, même si elle vit seule ses aventures, elle reste une personne dont la principale force est son physique, et elle le sait et le met en valeur justement dans ses histoires.
Ouais. C'est un peu la problématique qu'on avait eue avec Bayonetta, où c'était le personnage hyper sexualisé mais qui va s'en servir pour justement être totalement en supériorité vis-à-vis des hommes, parce qu'elle se sert de ça. Mais il y a le côté, encore une fois, on vend les figurines, c'est super, elle a une tenue latex super moulante. Et c'est un petit peu la même chose entre Fujiko et par exemple Matoi Ryoko dans Kill la Kill, où au final elle se sert de sa nudité et de sa féminité comme arme. Et c'est un petit peu subversif dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, ça reste quand même des héroïnes vaguement mineures qui sont à moitié à poil.
Oh, Fujiko n'est pas du tout mineur, par
contre. Oui, non, par contre, Fujiko ne l'est pas.
Mais à noter que, bon, c'est un petit point, si vous regardiez la série en VF, c'est Magali, en fait, le nom... Le nom français, voilà, le petit point. Non, mais après, c'est toujours la même chose avec la femme fatale. Effectivement, il y a toujours ce côté. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a la représentation, on va dire, sexualisée? Est-ce que c'est juste pour le style, pour servir le personnage de la force? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'inverse? C'est la force qui est une excuse pour pouvoir montrer ça. Et c'est très compliqué de déterminer lequel cas, surtout dans le cas de Fujiko qui... n'a après, pas grand-chose à démontrer en termes d'histoire. Quoi.
Fujiko a quand même son œuvre à elle, donc ça reste
comme
un petit peu
différent.
Voilà.
Comme les héroïnes de Keijo.
Voilà, donc t'étais pas obligé de parler de Keijo.
Moi, je trouve ça intéressant de parler de Keijo.
Voilà, vous irez vous renseigner. C'est disponible en France en plus. Par contre, je viens de me poser la question, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut circuler.
On va quand même faire une rapide petite conclusion avant de laisser la place aux questions. Donc, comme on a pu voir, il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions sur les personnages féminins. On peut remercier entre autres le fait qu'on ait beaucoup plus d'animés qu'à une certaine époque. Hein, parce que avant, on avait une dizaine d'animés par an, maintenant, on en a pratiquement 200. Donc, forcément, ça aide à avoir des femmes dans d'autres rôles que ce qu'ils étaient précédemment. C'est pas encore tout à fait rose, hein, parce qu'on l'a vu.
On retrouve toujours les mêmes clichés chaque année. Hein. On a l'animé harem chaque saison, on va avoir notre animé d'aventure chaque saison.
Oui, parce que le public au final sera le même. Ça sera toujours le public masculin, sauf quand c'est le reverse harem où au final on va juste pas mettre de femmes parce que le plus important c'est de vendre les beaux jeunes hommes.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Et c'est vrai que pour conclure, c'est que comme on disait, justement, comme l'animé est une industrie, au final on va essayer de vendre ce qui pourrait vendre le plus. Et c'est vrai que du coup tous les ans, comme on dit, on va avoir l'anime RM parce que c'est ce qui vend et c'est ce que dont les figurines vendent. C'est-à-dire que là, un des plus gros exemples qu'on avait, c'était par exemple Asuna qui va respecter tous les clichés qu'on a vus sur les 100 dernières années et qui pourtant va continuer de vendre des tonnes de figurines, va se faire worshipper par des tonnes de fans.
Alors, worshipper, c'est...
Worshipper, c'est
l'annulation.
On va la mettre sur un piédestal, on va dire que c'est la meilleure, quand finalement, on va respecter tous les mêmes clichés qu'on a dénoncés sur les 100 dernières années. Quoi.
Au final, ce qui n'aide pas, c'est que l'auteur participe grandement de ça aussi, en cas d'Asuna. Il reste 10 petites minutes, on va prendre des questions si vous en avez.
10 bonnes minutes. Hein.
10 bonnes minutes même, on va quand même... Donc voilà, on est...
Alors, si tu pouvais te lever à la rigueur, si ça ne te dérange pas. Hein.
Allô ?
Oui, c'est bon.
Bonjour, je me demandais pourquoi vous aviez choisi une image du Major Kusanagi assez racoleuse, enfin c'est subjectif, mais je trouve que dans le film, enfin le seul que j'ai vu, le film d'animation, je ne connais pas le manga, ni la série d'animation, ni c'est tout. Je trouve que c'est un personnage assez fort et qui n'est pas hyper sexualisé que ça, enfin à part certaines scènes. Voilà, je me demande si c'est une image du marketing. Mais c'est pas l'image que j'ai retenue du personnage dans le film d'animation, en fait.
L'image que j'ai reprise quand j'ai fait le PowerPoint, c'était l'image d'un poster qui était offert avec un des magazines qui était publié à l'époque. Donc c'est vraiment une image officielle. Et qui, du coup, mettait quand même plutôt en avant le fait qu'elle est bonne et elle n'est pas très habillée. Après, le film, je suis d'accord avec toi, le film met pas forcément très très en avant la sexualité du Major Kusanagi. L'animé le fait un petit peu plus. Le manga le fait beaucoup plus parce que dans le manga, je sais pas si vous avez déjà lu, assez peu de monde a lu le manga original de Ghost in the Shell. Faut savoir que dans le manga original de Ghost in the Shell, il y a des scènes de cul.
Et on en retombe peut-être à ce qu'on disait sur le truc de la femme forte. Est-ce que le fait qu'elle soit forte est une excuse pour ça ou c'est l'inverse? En fait, il s'avère que... Mais là, on est dans une problématique qui est un peu plus complexe, qui est pourquoi est-ce qu'on utilise cette représentation qui est très, très animée, très manga? Pourquoi spécifiquement dans ces médiums-là? On n'est pas allé jusque-là au niveau de la table ronde, mais c'est effectivement une bonne question.
Ça a répondu à ta question?
Ok, est-ce qu'il y a une autre question du coup?
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, je voulais vous remercier l'Utopial de proposer ce genre de conférences qui sont très intéressantes. Et je voulais rebondir parce que hier, on a vu Boda Foka, qui était diffusée en dessous, qui est une collaboration franco-japonaise. Et il passe pas le test de Bechdel, quoi. Et il y a trois personnages féminins, la mère qui meurt pour le chemin du héros. Voilà, il y a le sexe intéresse. Et il y a des prostituées qui parlent même pas. Et du coup, je voulais savoir ce qu'il en était, votre avis par rapport à ça.
Alors, je vais peut-être rappeler ce que c'est que le test, justement, de Bechdel.
Tout de même.
Non, mais vas-y, si on peut lui laisser le...
Non.
Non, vas-y. Est-ce qu'on peut lui redonner le micro quand même, parce que c'est elle qui a abordé le sujet, donc on va pas...
Alors, le test de Bechdel, c'est dans une fiction, à savoir, est-ce qu'il y a plus de deux personnages féminins? est-ce qu'ils prennent la parole et est-ce que quand ils parlent d'autre chose que d'un personnage masculin, hein? Et qu'ils ont un nom.
Oui, il faut qu'ils soient nommés. Il faut qu'ils soient nommés et identifiés.
Du coup, j'ai pas vu le film, donc je saurais...
Bah, j'ai pas vu le film, donc on va répondre, je pense, de manière assez générale, parce qu'aucun de nous n'était là hier à 21h15. Si on laisse le Slice of Life de côté, parce que forcément, c'est des œuvres qui vont être 100% féminines, donc en fait, le Touch de Bechdel, j'ai envie de dire qu'il est passé automatiquement, parce qu'il n'y a, a pas de personnage masculin, hein, donc forcément. Mais c'est vrai que dans la plupart des œuvres de l'animation japonaise, il y a quand même sur la slide qui est prise, par exemple, on peut les passer les uns après les autres. Dans Albator, je suis à peu près sûr que c'est pas passé. Dans Gundam, ça l'est. Dans Ghost in the Shell, j'arrive même pas à trouver un autre personnage féminin que le Major.
Et pourtant, c'est des séries et même pas des films. Normalement, voilà. Le test de Bechdel, ça marche surtout pour un film. Là, si même dans une série qui dure quelques saisons, il n'y a pas ces interactions ni ces personnages, c'est quand même assez problématique.
Dans Escaflowne,
je pense pas.
Dans Cowboy Bebop, je pense pas non plus. Dans Gurren Lagann, je pense que ça doit le passer.
Si, ça dépend si on compte Ed qui a interagi avec Valentine.
On va pas rentrer dans les détails. Ouais.
Du coup, là, on le passe dans ce cas-là.
Mais, et donc, Asuka et Rei parlent ensemble.
Asuka et Rei, ouais, elles parlent ensemble d'autres choses que Shinji de temps en temps.
Voilà. Après, ça reste. En fait, le test de Bechdel, ça s'ancre dans des soucis de représentation. C'est très très occidental comme question. Et je pense qu'au Japon, la représentation globalement, que ce soit des femmes ou même, quand on en parlait tout à l'heure, d'homosexualité, ça se pose pas. C'est pas encore une problématique des sociétés dont ils se préoccupent. Mmh. Donc je sais pas si dans les médias, ça peut vraiment...
Le test reste pertinent malgré tout. Hein.
Moi, oui, le test reste pertinent, mais c'est super dommage.
Si on passe à la slide sur les 10 dernières années,
ouais, attends.
On va voir qu'en fait, il y a beaucoup plus de slides. Par exemple, là, sur la slide des 10 dernières années, à part Utano Prinsama, l'intégralité des œuvres passe le test de Bechdel.
Il y a deux personnages nommés dans Utano Prinsama. Ah. Il y en a deux.
Est-ce qu'elles parlent ensemble
de... Oui, elles parlent de musique.
Ah, très bien. Dans la dernière slide, il y a quand même l'ensemble des œuvres qui répondent. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine évolution, même si c'est pas encore un sujet de société comme c'est en Occident. Il y a quand même une certaine progression.
C'est pas une problématique que se posent les gens qui vont faire l'anime en fait. Mm. De toute manière, en plus, il y a aussi le problème de la diversité des créateurs qui au Japon n'est pas du tout là. Parce que ça reste quand même majoritairement masculin, donc forcément, eux, ils vont...
Alors là, je suis pas d'accord avec toi, mais les créateurs
est-ce que
sont
tu peux Est-ce que tu peux m'en citer plus de 10?
Oula, 10
par 1000,
enfin, attention, là, 2
Je parle des créateurs, hein, pas des héroïnes.
Mais oui, non, bien sûr.
On va peut-être s'éloigner un peu de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup?
Parce qu'on pourrait faire une conférence entière aussi sur vraiment les femmes créatrices, ce serait tout aussi
intéressant. Et sur ce qu'elles apportent.
Là, au premier plan, j'ai vu quelqu'un
premier plan.
Au premier rang, oui.
Premier rang.
Bonjour. Moi, j'avais une question. Alors, moi, je trouve que les mangas comme Lovina ou même la série suivante, Negima, ça reste quand même sur le même modèle. Pour avoir lu les deux, je trouve que c'est un peu quand même les mêmes gags qui reviennent. Et c'est l'histoire qu'il y a autour... donc dans Negima, plus côté magicien, et un prétexte, en fait, je trouve, pour remettre en forme exactement le même modèle de base. Je me demandais si au Japon, au niveau réception du public, est-ce que les lecteurs continuaient de se satisfaire de ces choses qui, pour moi, reviennent quand même assez souvent, ou est-ce que, si on parle, par exemple, des films d'animation de Miyazaki, par exemple, où les personnages féminins sont quand même très forts, est-ce qu'ils n'essayaient pas justement de se tourner vers ce nouveau type de personnages féminins ou ce nouveau type d'animation où c'est le personnage masculin qui est en retrait par rapport au personnage féminin, justement?
Alors, je vais juste faire peut-être d'abord répondre sur la côté Akamatsu, je vous laisserai pour l'autre partie. Sur Akamatsu, je trouve qu'il y a une différence quand même assez majeure entre Lovina et Negima, c'est que Lovina est quand même un peu plus académique, enfin il l'est moins que ses œuvres précédentes, mais un peu plus académique en tout cas sur le sujet de ses héroïnes que Negima. Alors Negima le fait beaucoup au début en fait. Negima au tout début, c'est quand même assez, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est assez répétitif par rapport au gag de Lovina. Par contre, très vite, Akamatsu part... pas dans le nawak, mais part vraiment un petit peu quand il part dans un monde parallèle, etc., où on retrouve la magie, où il y a quelque chose qui, par exemple, il y a un gag dans Negima au tout début, c'est que quand Negi éternue, ça fait disparaître les vêtements de ses élèves. C'est un gag qu'on retrouve plus du tout dès les parties suivantes du manga, ce qui prouve qu'en fait il s'est un peu détaché de ça. Mais Akamatsu, je considère en fait qu'il fait un peu ce qu'il veut, donc il y revient parfois. Voilà, ça, c'était juste la parenthèse Akamatsu. Par contre, en termes de public, je pense que c'est pas vraiment la même chose entre.
Je voudrais juste ajouter, le harem, c'est un genre qui est extrêmement codifié, et même pas forcément Akamatsu et ces deux séries-là, mais je pense Nisekoi ou d'autres séries de harem, on retrouve principalement toujours les mêmes constructions d'histoire, parce que le harem est un genre codifié de base, et même si on a des contextes différents, forcément si on retombe sur un harem, on va retomber avec les mêmes problématiques, les mêmes personnages, les mêmes archétypes, et même avec toute l'imagination du monde, au bout d'un moment donné, on tourne en rond.
Je vais parler aussi rapidement du lectorat. Il faut savoir que nous, en France, on a uniquement des volumes reliés qui nous arrivent. Donc on voit le nom de l'auteur, on dit tiens, j'ai bien aimé son œuvre précédente, je vais lire la nouvelle. Au Japon, en fait, c'est prépublié en premier dans des magazines de prépublication, et ces magazines sont vraiment destinés à un certain public avec une certaine tranche d'âge. Donc Lovina, c'était prépublié dans le Shonen Magazine, donc qui est vraiment destiné aux enfants de 12 à 15 ans. Ils vont lire l'intégralité de Lovina, ça va être fini, ils auront 20 ans par exemple. Ils vont pas continuer à acheter le magazine dans lequel était publié Lovina, dans lequel il va publier sa nouvelle œuvre, parce que du coup, bah, c'est plus cette tranche d'âge-là. Et du coup, en fait, les gens qui vont lire Negima sont pas forcément les gens qui ont lu Lovina. Et du coup, bah, ça va avoir un renouvellement. Ça va avoir un renouvellement.
Voilà, je crois qu'on nous fait signe qu'il faut vraiment y aller, parce qu'on a Buzz l'éclair qui est visiblement.
Si vous voulez nous parler, on va monter là-haut au bar de Madame Spook. N'hésitez pas, on sera disponible pour des questions, du coup sans micro hein, cette fois-ci.
Voilà, et donc on va laisser la place au cosplay qui est là aussi organisé par Forum Tali. Et merci à vous d'avoir assisté à cette conférence.
Merci.